l'été ne prend pas de congé avec Jeff Fortin.
Boulevard 102.1.
Oh que non, l'actualité prend pas congé. J'espère que vous l'avez vu parce qu'on a eu Jean-François Roberge. Justement, l'émission ministre de l'Immigration, ça brasse en immigration. À Québec, on se relance la balle entre Ottawa et Québec, donc entre le fédéral et le provincial. Rien de nouveau, puis tout ça pour, malheureusement, pas le bénéfice de ces citoyens qui sont bien implantés présentement à Québec. Donc, ça sera à réécouter sur le blvd.fm. On met ça immédiatement après l'émission. Vous aurez également l'entrevue avec Frédéric Boisvert qui a un point très critique du ministre de l'Immigration qu'on a eu en entrevue par la suite. C'est le président et directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Il est 9h06 précisément. À la météo, c'est moins 11 degrés à l'heure actuelle. C'est le maximum pour la journée avec possibilité d'averse de neige. Demain, moins 8, il y aura de la neige intermittente débutant tard en après-midi pour le réveillon de Noël. Moins 6 pour Noël, moins 6 avec alternance de soleil et nuages. Pascal, il y a des petits problèmes dans la circulation?
Un petit problème. Il y a un incident sur Félix Leclerc-Ouest, fin de la bretelle vers Henri IV Nord. La voie droite qui est partiellement entravée, il y a une panne à ce niveau-là. Où êtes-vous? Que faites-vous? 88-971-1021, les réseaux routiers, ça roule ma poule, comme dit l'expression. Mais on veut savoir, vous faites quoi en ce 22 décembre?
Oh,
comment vous nous écoutez?
Oui.
Merci.
Vous rappelez qu'on est de retour sur twitch.tv/blvd/fm et téléchargez notre application BLVD 102.1 sur App Store et Google Play Store. Meilleur moyen de nous suivre durant la période des fêtes. On va de ce pas rejoindre notre chroniqueuse en politique municipale, Alicia Despins. On va faire un retour sur une année complètement folle à Québec en politique. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien, ça va bien. Vous autres aussi?
Ben oui, ça va super bien. Alicia, on va faire ce retour de l'année en 4 temps, c'est-à-dire des périodes de 3 mois. Et par la suite, prof Alicia, tu as tes petites étoiles pour certains politiciens. La petite étoile dans le cahier Canada, Pascal, te souviens-tu de ça? T'avais-tu ça tout dans ton temps? T'as 31 ans?
Oui, j'avais ça.
Oh, oui,
avec
des
petits mots de l'enseignante.
Oui, c'était tellement bon chercher à avoir notre petite étoile. Ça, on commence avec les 3 premiers mois de l'année, Alicia, de janvier à mars. On l'a quasiment oublié, mais ça avait brossé anti-pêché. Il y avait eu une grève des cols bleus à Québec.
Ben oui, parce qu'en février, il neigeait pas mal, c'était le carnaval, puis c'est ce moment-là que les cols bleus ont choisi là, pour annoncer le déclenchement d'une grève. Donc, les cols bleus, c'est ceux qui s'occupent pas mal de tout ce qu'on voit au quotidien à la ville, déneigement, loisirs. On se souvient qu'il y a des jeunes là, qui n'avaient plus accès là, à leurs cours de hockey, je pense.
Oui.
On parle de la collecte des matières résiduelles. Puis les plaintes ont vraiment explosé au 3-1. On a eu presque 1600 plaintes là, en quelques jours reçues pendant cette période-là, juste pour cet incident-là. Et ben, heureusement, fin février, les cols bleus suspendent leur grève.
Oui, exactement.
Ça a brassé quand même, mais moi, je trouve que le mois où ça a brassé le plus à la Ville de Québec, c'est au mois de mars. À l'hôtel de ville, là on a eu vraiment là, un genre
si
de...
Si je me souviens bien, c'est Louis Martin et Isabelle Roy, Pascal, qui disent « À chaque Montcamp de Québec d'abord, puis là, ben c'est l'ombre de Sam Hamad qui commence à planer à l'hôtel de ville. »
Ça sent les élections. Là. On sent qu'on est vraiment en train de se diriger... plus rapidement que d'autres choses, là, vers les élections. Donc, effectivement, Isabelle Roy, qui est conseillère municipale à cette époque-là, avec Québec d'abord, avec l'équipe de Claude Villeneuve, elle flirte avec Sam Hamad, qui est déjà dans le portrait, mais qui n'est pas encore annoncé à ce moment-là comme candidat à la mairie. Donc, Isabelle se fait exclure du caucus, elle devient indépendante. Puis, quelques jours plus tard, Louis Martin, qui est à ce moment-là aussi avec Québec d'abord, président du conseil de ville, comme tu l'as dit, il quitte le parti pour poursuivre ses discussions, lui aussi, avec sa maman. Donc, il se fait expulser de son siège de président. On change de président. Mais ça brasse aussi du côté d'équipe Priorité Québec, Steven Melançon, qui remplace Patrick Paquette comme chef du parti, qui poursuit aussi ses discussions avec sa maman. Et du côté de Québec d'abord, peut-être qu'on veut changer les nouvelles. Donc, on annonce que les 4 conseillères du parti, soit moi-même, Anne Corriveau, Patricia, Véronique, vont tous se représenter aux côtés de Claude Villeneuve. Donc, il y a un gros début d'année à Québec en 2025.
L'ombre de Sam Hamad continue de planer, Pascal, sur Québec
ça
jusqu'à
toute l'année.
Son arrivée officielle aux alentours de fin mai, début juin. Toi qui es très plugué sur l'actualité politique, lors de son annonce, souviens-toi son annonce Leadership Québec, comment tu t'étais senti?
Ben, vraiment pas surprise, honnêtement, mais mm-hmm. je trouvais que ça manquait un peu de couleurs, de choses officielles, de chair autour de l'os. J'aurais aimé ça qu'on se présente déjà droit, parce que ça faisait des mois qu'on en parlait, avec un genre de 3 points prioritaires, qu'on rentre dans l'arène ouais. en Lion.
Alicia, ce faux départ-là de sa maman a fait énormément l'actualité, puis quand on regarde ça à long terme, c'est un faux départ qui est resté collé à la peau.
Ben oui, puis je pense que ça a vraiment ça a été sa signature tout au long de l'élection. On dirait que sa stratégie pour lui, c'était d'arriver le plus tard possible, de faire comme un espèce de choc, là, de traitement choc, d'arriver dans l'actualité, puis que ça allait être fait, que sa notoriété allait le précéder, puis allait rendre ça facile pour lui. Ça n'a pas été le cas. Donc, il a attendu. À un moment donné, c'était quasiment, tu sais, au printemps, on se souvient, c'était quasiment rendu un running gag. C'est quand que sa maman va se présenter. C'était un secret de polichinelle. Tout le monde savait qu'elle allait se présenter. Il n'y est même pas, mais il faisait encore pas l'annonce. Donc, il participait pas nécessairement là, au débat public. Il réagissait pas à l'actualité ou à ce qui se passait à l'hôtel de ville. Donc, ça manquait, ça, de pouvoir là, s'inscrire dans le débat public, de pouvoir marteler des messages tout de suite. C'est plate parce que, c'est plate, je sais pas, là, ça dépend des opinions, mais les élections municipales sont à date fixe. Puis ce qu'on mm-hmm. sait avec les élections à date fixe, c'est que ça commence à chaque fois plus tôt dans l'année. Puis moi, quand je suis arrivée en 2017, on commençait les élections au mois de juin. Les élections de 2025, à mon avis, ils ont pas mal commencé au mois de mai. Puis je pense que dans 4 ans, ça risque de commencer en avril. On prend de plus en plus de temps. Là. Éventuellement, on va être dans une année électorale. On va commencer un an d'avance. Les équipes sont prêtes. Puis sa maman, de toute évidence, ne l'était pas à ce moment-là. Par contre, au mois de juin, il fait son premier gros coup après son annonce. Donc, il annonce que Louis Martin et Isabelle Roy vont se présenter sous la bannière de sa maman. Tourne par le fait même le dos au tramway. Et donc, là, sa maman, à partir du mois de juin, il y a des élus officiellement qui siègent à l'hôtel de ville.
Penses-tu que, je te pose la question, Pascal, penses-tu que c'est des craques d'actualité comme moi, toi, puis les médias? Là, la politique municipale est couverte en crime là, à Québec. Là. Je pense à Olivier Lemieux à Radio-Can, à Danny Côté à TV. Je pense également à Novo TV, Mathieu Boivin.
Il y a plein de chroniqueurs aussi, Karine ouais, Gagne, etc.
Exactement. Penses-tu que c'est ça qui fait en sorte que là, on a commencé ça en mai, qu'en 2029, on va commencer ça en avril, puis qu'en maintenant, on va être rendu en 2040, qu'on va le starter en janvier?
pas nécessairement. Non? Toi, oui?
Je sais pas. Il me semble qu'on est des fans d'actualité politique municipale. Ouais. Je pense que, surtout depuis qu'on a eu un personnage comme Régis Labombe, là, à la tête de la ville, là, qui a fait en sorte d'attirer beaucoup les médias. Toi, Alicia, t'en penses quoi de ça?
Moi, pour l'avoir vécu, c'est sûr et certain que tu pars ta campagne parce que tu sens une pression médiatique d'annoncer des choses tout de suite.
Mais en même temps, si on était rendu dans un mouvement comme cela, c'est qu'on avait assez de rumeurs, on avait assez de confirmations, on savait que ça ruait dans les brancards. Puis au contraire, il faut s'ajuster en politique à ça, non?
Oui, c'est sûr. C'est un peu des deux, tu sais. On a vu ça ailleurs, des gens qui se présentent plus tard, puis ça marche. On dirait que le momentum n'est pas là pour les gens qui étaient déjà prêts. C'est quasiment rendu des vieilles nouvelles. Si tu n'as pas réussi à accrocher les citoyens ou à intéresser les médias plus que ça, on ne parlera pas nécessairement plus de toi. Je pense que toutes les stratégies se valent. Ça dépend de la façon dont tu la mets en œuvre, puis tu réussis à sortir ton épingle du jeu. Là. Je pense pas que ça va être une règle coulée dans le béton qui dit que si tu veux réussir ta campagne électorale, il faut que tu commences longtemps d'avance. On l'a vu avec d'autres, on l'a vu avec Claude Villeneuve, avec Jackie Smith, que c'est pas nécessairement des gages de succès là, ouais. ultimement le jour de l'élection.
Toi, Jeff, mettons, là, t'es pas en ouais. politique, Alicia a été en politique. C'était quoi ton pouls par rapport à ça? Aurais-tu dû attendre avec un pas de recul? Aurais-tu dû attendre ou non? C'était le temps de le faire, mais de le faire avec une vitesse accélérée.
Il était tellement attendu, sa mamade, que je pense qu'à un moment donné, il n'a pas eu le choix de se présenter. La seule chose, et là, c'est là que je vais aimer entendre Alicia aussi, c'est que je crois que tant qu'à se présenter, il aurait dû se présenter immédiatement avec de quoi de solide au lieu de dire
« Oh,
attendez, la campagne électorale s'en vient. » Il aurait dû arriver, il s'était autoproclamé le leader de Québec avec Leadership Québec, il aurait dû arriver en leader et dire « Voici moi ce que je propose. » Puis même si les autres vont commenter ce que je propose, même si je vais tomber dans une actualité où je vais devoir répondre à des questions, j'aime mieux ça que toujours répondre « on verra
ouais, ». Ouais,
qu'est-ce que t'en penses, Alicia?
Il y aurait pu, l'autre stratégie qu'il aurait pu utiliser, c'est, comme tu dis, attendre. Il aurait pu s'annoncer juste à la fin août, même au début septembre, même au déclenchement de l'élection, mi-septembre, avec un gros coup, une équipe complète, des idées, des projets, une plateforme électorale. Mais Sam Allen, il s'est scoopé lui-même là, tout au long du printemps. Il a pogné les rumeurs qu'il allait se présenter. Il en parlait presque ouvertement. Fait que il a participé finalement à ça, à s'annoncer avant l'heure, à bâtir l'espèce de pression médiatique. Et c'est comme tu viens de dire, il était tellement attendu que il ne pouvait plus se passer grand-chose tant que Sam Ahmad n'annonçait pas qu'il allait se présenter officiellement parce que c'était connu de tous que ça allait être ça de toute façon.
Avant de revenir sur la campagne électorale et le résultat électoral, Alicia, je m'excuse peut-être pour la question difficile, mais est-ce que c'est toi, Anne Corriveau et Patricia Bruyère qui avaient donné le coup de grâce à Québec d'abord en finalement ne vous présentant pas à cette campagne électorale?
Ben, dans mon exercice là, de faire ça mois par mois, j'ai creusé ma mémoire, je suis retournée dans les nouvelles. On dirait que ça passe vite le temps. Hein? Tu sais, le janvier 2025, là, le début de l'année, là, le contexte politique était complètement différent. Puis là, quand tu regardes ça chronologiquement parlant, effectivement, au mois de mai, moi, j'annonce que je ne me représente pas. Puis là, on fait un fast-forward. Un mois plus tard, Anne Corriveau annonce qu'elle non plus, elle ne se représente pas. Au mois d'août, Patricia Boudreau-Bruyère annonce la même chose. Fait qu'on sent que c'est ça, les soldats tombent du côté de Claude Villeneuve, où finalement, en septembre, ben, des élus de Québec d'abord, il y a juste Véronique Dallaire et Claude Villeneuve là, qui sont sur la ligne de départ là, pour cette élection-là. Fait que c'est sûr que ça annonce pas bien, mais là, c'est sûr que c'est facile à dire avec le recul qu'on a.
Ligne de départ à 28 % pour Bruno Marchand, 26 % pour Sam Ahmad. C'est très, très, très serré, mais là, Sam Ahmad va perdre des plumes, Respect citoyen va gagner en popularité, mais la popularité du maire Marchand va monter en flèche. On est maintenant rendu en décembre. C'est quoi l'analyse que tu fais de tout ça, de cette campagne électorale-là?
Bien, en décembre, c'est ça. Bruno Marchand, il a les coups des franches. Il surfe sur sa victoire. C'est un peu une victoire morale aussi. Oui, il a gagné haut la main, mais il a dit qu'il allait gagner haut la main. Il a dit qu'il allait faire ses projets. Il a dit qu'on l'avait sous-estimé. Bon, il a démontré tout ça au final. Puis, il l'a démontré non seulement auprès de ses adversaires politiques, mais il l'a démontré auprès du gouvernement. Puis ça, c'est très important pour la suite des choses pour l'année qui commence. Donc, Bruno Marchand, décembre 2025, il surfe sur sa victoire, il surfe sur sa majorité au conseil municipal. C'est déjà le maire en place, donc il n'y a pas besoin là, de peaufiner un budget, de prendre du temps. C'est une des villes, la ville de Québec, qui a déposé son budget le plus rapidement. Puis après une élection, d'habitude, les villes, ils prennent un petit peu plus de temps, surtout quand il y a des changements d'administration. Mm-hmm. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que tu retravailles. Il y a des choses que tu n'avais pas prévues. Mais là, lui, son budget, il est prêt. Il dépose une hausse de 1,9% pour les taxes résidentielles. On en a parlé ensemble il y a quelques semaines. L'ajout de 50 policiers, la diminution de la dette pour une 11e année consécutive. Fait qu'il donne le ton. C'est la bonne gestion budgétaire. Il n'hésitera pas à mettre des projets de côté ou à les mettre sur pause si le contexte financier l'exige pour pouvoir être rigoureux à cet égard-là. Mais il y a des projets, il veut quand même soutenir là, les organismes en itinérance, par exemple, puis accomplir là, les objectifs qu'il s'est donné. Donc là, il y a 4 ans, ça commence maintenant.
Pascal, c'est quoi tes craintes pour ce deuxième mandat-là de Bruno Marchand?
Ben moi, c'est sûr que depuis le début, je parle du ton, le fait d'être majoritaire là, avec de nouveaux conseillers. On va arriver avec certainement des épines. Là. On va piler sur des épines, on n'aura pas le choix avec des enjeux comme le tramway, quand ça va commencer à faire des expropriations claires, quand on va commencer avec les travaux. On parlait de René Lévesque qui allait être dès la première semaine de janvier, selon des informations, rien de certain. Là, mais c'est sûr que le ton va devoir rester celui qu'on entend depuis son élection, c'est son épée Damoclès au-dessus de sa tête. C'est celui qui a mal servi durant le premier mandat puis qui a fait en sorte qu'il avait perdu beaucoup de plumes. La façon dont il s'adressait aux gens, autant en affaires que pour les citoyens. Il semble avoir appris de ça, il le dit haut et fort. L'autre affaire, c'est la taxation. Peut-être que là, cette année, on n'est pas dans une hausse terrible, mais est-ce qu'on va devoir se reprendre l'an prochain? Est-ce qu'on va... Il est fort sur la taxe et non sur la coupure à des endroits.
Oui, notamment avec la taxe à l'immigration, taxe au choix, etc.
Exact. Là, je semble négatif, mais tu m'as demandé sur quoi est-ce que je regarde
et je
suggère peut-être des vérifications ou encore un pas vers l'arrière. Mais c'est aussi... Et je le dis avec beaucoup d'affection pour les jeunes qui se lancent en politique, son équipe qui est néophyte. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait de politique. Mm-hmm. Il y en a beaucoup qui connaissent peut-être moins les rouages. Et lui-même n'est pas un politicien de carrière. C'est un homme qui apprend encore à faire de la politique.
Oui, il a une expérience de 4 ans, en effet,
exact.
Entièrement raison.
Donc, il y a peut-être quelques petites bombes là, sur son chemin à éviter parce qu'il y a une équipe plus jeune.
Alicia, sur la jeunesse justement de l'équipe, je trouve le point de vue super intéressant de Pascal parce que, toi, tu es arrivé en politique très jeune, mais il y avait un maire bien dans le ciel qui connaissait tout. C'était Régis Labeaume. Puis il connaissait comment la machine fonctionnait, il y allait.
Et il a mentoré Alicia Despentes.
Exactement. Bruno Marchand a moins ce contrôle-là que Régis Labeaume avait. Est-ce que c'est justement un angle mort qu'il va falloir surveiller dans les 4 prochaines années?
Bien, moi, je suis très d'accord là, avec le constat de Pascal. Là. Je veux rebondir quand même sur le risque qu'elle identifie de l'ego, tu sais, ou de bon. Quand tu gagnes avec presque 50 % des votes, là, c'est facile de s'enfler la tête. Puis là, on l'a vu, le ton. Il faut qu'il se ramène un peu une fois de temps en temps. L'expulsion du maire de Saint-Augustin de à peu près tous les forums.
Ouais, c'est vrai.
Ça, je pense, c'est un bon exemple de « Oh, y a-tu un petit glissement de ce côté-là? Est-ce qu'il est trop confiant là, dans son nouveau rôle de maire très fortement majoritaire? » Bon, je laisse la question en suspens. On va voir comment ça se règle tout ça. Sur la question de la jeunesse, c'est vrai que quand tu as une équipe de nouveau comme ça, mais là, en ce moment, ils sont encore sur une lune de miel. Là. Ça va bien. Il a réussi à donner des dossiers à peu près à tout le monde pour que tout le monde se sente satisfait d'un point de vue de responsabilité puis d'un point de vue financier aussi. Ça, c'est important. Régis Labeaume n'avait pas fait ça en 2017. Il avait concentré les postes pour que la masse salariale des élus soit la plus basse possible. Ça, c'est important pour lui. C'est pas un choix que Bruno Marchand a fait ici. Par contre, quand tu as une équipe de 18 personnes, on l'a vu, Régis Labeaume, il a commencé lui aussi avec 18 élus en 2017, ça peut brasser solide à l'interne aussi. Là. Tu peux faire des mécontents, tu peux prendre des décisions, des gens ils retournent dans leur quartier, ils se font brasser, ils n'aiment pas ça, ils peuvent sortir un peu des rangs, ils peuvent faire des gaffes que là, le maire doit ramasser pendant quelques jours médiatiquement ou sur la place publique ou au conseil de ville. Ça, je pense que ça ne tente pas de faire cette gestion-là à l'interne. Donc là, il va falloir qu'il s'assure là, que sa gang elle reste dans les rangs. C'est un peu une job de chef de cabinet, ça aussi. Donc, je pense pas que lui, personnellement, s'en charge la plupart du temps, mais son chef de cabinet risque de passer pas mal de temps à s'assurer que ses élus, ils restent dans le rang, là, puis... Parler d'eux.
Et qui demeure heureux. On a parlé beaucoup de Bruno Marchand et Sam Ahmad qui faisaient partie justement des 4 politiciens là, que tu voulais regrouper là, dans tes étudiants. Tu as mentionné le nom de Louis Martin. Moi, Louis Martin, je le vois comme le grand influencé. Tu sais, à l'école, il y a des intimidateurs qui en influencent d'autres. Là. Ben Louis Martin, pour moi, j'ai l'impression que ça a été ça. Il a complètement viré sa chemise de bord pour s'en aller avec Sam Ahmad en disant « je vais être réélu ». Au bout de la ligne, Anissa, il a complètement perdu.
Toi, tu parles de celui, dans le fond, qui commence à mettre sa casquette par en arrière. Là,
c'est ça.
Tout le monde met sa casquette par en arrière.
Ouais. En plein ça. Tu sais, celui là qui était bien straight, là, puis à un moment donné, il disait « moi, je veux ressembler au rapper de la place ». Fait qu'il met sa calotte à l'envers, il arrive avec ses baggies, puis c'est Air Jordan. Mais ça
c'est
fit
comme tes
pas
coiffeurs, ça. C'est comme ton barbier, là.
C'est ça, mais ça fit pas pantoute.
Ben moi, Louis Martin, tu sais, si c'était un stéréotype là, du genre d'étudiant que j'ai croisé dans mes cours au cégep ou à l'université, c'est celui qui commence le cours, il check comment ça se passe, puis là, il entend dire que dans la classe de l'autre prof, l'examen, il est plus facile. Fait qu'il va au registraire, il se fait changer de groupe. Puis finalement, ben, il coule quand même son examen.
J'adore ça.
Donc ça, c'est Louis Martin, je le dis avec toute amitié, qui ben, finalement a perdu son pari à sa maman. Il y a une dernière étudiante dont je voulais parler parce que, ben, évidemment...
Oui, vas-y, mais avant que tu y ailles, là, je veux juste te dire, j'ai adoré quand tu m'as envoyé ton plan, justement, de voir cette étudiante-là parce que il y a toujours dans la vie des héros obscurs, Pascal, où tu des gens qui travaillent super fort, mais dans l'ombre, qui sont jamais à l'avant-plan, qui prennent pas de place, mais que si t'as pas dans ton équipe, t'es foutu. Et cette personne-là, elle est ça pour Québec Forte et Fière.
Oui, puis elle cherche pas ça. Elle cherche pas la lumière, elle cherche pas la reconnaissance. Elle est là pour faire le travail, le faire bien, puis avoir des résultats. Tu sais, quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons, là, c'est vraiment ça. Donc, la dernière étudiante, ben, c'est celle qui, en plus d'avoir des super bonnes notes, évidemment, a fait du tutorat, elle s'implique dans des comités. Bref, elle se concentre pas juste sur sa cotère à elle, mais elle aide les autres. T'sais, c'est vraiment une plus-value, finalement, pour l'école ou pour la classe. Mais ça, c'est Marc-Pierre Boucher qui a été élu en 2021 avec Bruno Marchand dans le coin de Charlebourg, qui a été réélu dans l'équipe de Bruno Marchand, mais maintenant elle est vice-présidente du comité exécutif. C'est une personne que tout le monde apprécie énormément. Puis si ça vous dit quelque chose, ben c'est celle qui s'occupe notamment de l'itinérance, qui s'occupe du logement social, du développement social. Bref, elle s'occupe de toutes les choses qui sont sensibles, qui sont difficiles, qui sont complexes. Ce n'est pas des enjeux là, qui se règlent facilement, tout ça. Puis elle le fait avec... avec une sensibilité puis une rigueur là, exceptionnelle. Donc, moi, je pense que c'est une étoile montante, là, Marc-Pierre Boucher. Il faut qu'elle prenne plus de place. Il faut qu'on entende plus parler.
Et souvent, justement, on dort l'image de ces gens-là. Puis à un moment donné, ben, ils viennent qu'à avoir plus de temps de glace, peut-être au front des médias. Et ça tourne pas toujours super bien. Est-ce que tu penses que pour ces gens-là qui se font monter peut-être dans la hiérarchie politique et qui performaient très, très bien dans leurs affaires sur leur terrain, il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention?
Et ça me fait pas, oui, c'est sûr qu'il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention. Ici, ça me fait pas peur avec Marc-Pierre Boucher parce que là, après 4 ans, elle connaît ses dossiers, elle est à l'aise, elle est capable de défendre ses choses, elle est capable de bien expliquer ses points. Fait qu'elle a l'expérience nécessaire, je pense, pour éviter les pièges. Là, le risque avec Marc-Pierre Boucher, c'est de pas trop s'étirer, là, parce que là, elle a encore des grosses responsabilités, mais on y a aussi donné le rôle de vice-présidente du comité exécutif et un rôle de mentorat auprès des nouveaux élus.
Ça fait beaucoup.
Là, dans la gestion de son temps, dans la gestion de ses énergies, elle a quand même une vie personnelle aussi, puis bon, on le disait tantôt, on parlait de repos, là, c'est important. Mm-hmm. Là. Il va falloir qu'elle fasse attention à son temps puis à son énergie. Mais c'est sûr que quelqu'un à qui, tu sais, là, je nommerai pas des noms, là, j'ai pas d'idée spécifique en tête, mais le risque quand t'arrives, t'es nouveau, on te donne des grosses responsabilités, puis ça, c'est Louis Côté, chef de cabinet de Régis Lamonde, qui disait ça aux nouveaux élus. Donc, moi, Émilie Villeneuve, Pierre-Luc Lachance, qui en a été élu. Enflez-vous pas la tête, mm-hmm. Assurez-vous d'être capable de passer dans le cadre de porte. Ça, je pense que c'est le risque numéro un de prendre notre job trop au sérieux puis de se prendre trop au sérieux. Rapidement, là, il faut casser ça puis s'assurer que les gens ils continuent d'être là pour les bonnes raisons puis qu'ils restent très, très, très conscients que leur rôle, il est temporaire puis il faut qu'ils servent la ville avant de se servir eux-mêmes.
Alors, ça va de soi, d'abord, cette prochaine question-là. Alicia Despins, t'es arrivée en politique jeune, on l'a dit, t'as eu un mentor qui était Régis Labeaume, il y avait peut-être un petit peu plus de temps, t'avais une équipe bien en place, bien en ciel depuis longtemps. Est-ce que t'as été contactée par des jeunes qui viennent d'être élus, même si c'était parti adverse pour toi, pour justement aider à bien comprendre la politique, à aller de l'avant? Et où, qu'est-ce qu'il faut absolument noter dans notre angle mort en jeunesse en politique?
Ben oui, j'ai été contactée. Où j'ai contacté? Évidemment, j'ai appelé Clément Bourdeau, qui a gagné, qui a, je pense, 25 ans, qui a gagné dans mon district de Vanier-du-Berger. J'étais allée prendre un café avec Gabriel Dussablon aussi, qui est le plus jeune élu, qui m'a battu dans mon titre de plus jeune élu de l'histoire de la ville de Québec par 71 jours. Donc,
tu dois vraiment être déçue.
Ah, regarde, je suis tellement heureuse là, de ça. Puis Catherine, qui est nouvellement présidente du conseil d'arrondissement des Rivières, donc qui me remplace dans ce poste-là aussi. Ça, c'est trois jeunes au conseil municipal à qui j'ai parlé dans les dernières semaines. Moi, j'ai pas de conseil politique à donner à ces gens-là, mais quand tu arrives, puis ça, on n'en parle pas beaucoup, là, mais tu sais, quand tu es dans vingtaine, tu es étudiant, puis là, tabarouette, tu te ramasses dans ce rôle-là, s'enfler la, tu sais, l'équilibre entre s'enfler la tête puis se faire confiance. Combattre le sentiment d'imposteur, que tu n'as pas ta place ou que ben, les gens ils doivent savoir mieux que toi parce que tu es jeune, etc. Fait que ça, c'est un équilibre qui est difficile à tenir. Puis des fois, il te faut du monde pour te rappeler que ben non, t'es là, tu représentes beaucoup de gens, ton apport est important, c'est important que tu t'exprimes. Puis il y a aussi des affaires plus personnelles, disons, du côté de l'école. Moi, je tiens à ce que ces jeunes-là, en tout cas ceux qui sont à l'école, ils finissent leur cours. Ils sont pas obligés là, de continuer là, leur session à temps plein, l'école à temps plein, mais au moins un cours ici de temps en temps là, pour s'assurer que quand tu termines la politique, que ce soit 4, 8 ou 12 ans, ben, que tu aies quand même un bagage, là, puis que ton CV soit garni d'autres choses que juste de la politique. Des fois, c'est très difficile de se trouver un emploi. On pourra en parler une autre fois, là, à quel point c'est difficile pour certains élus de se replacer professionnellement. Puis une question financière aussi, ces jeunes-là, ils étaient étudiants, puis là, tout à coup, ils font un salaire de professionnel. Faut que tu fasses attention à tes affaires. Là.
Oh, c'est intéressant, ça aussi.
Ça se peut que tu refasses pas ce genre d'argent-là prochainement, fait que t'assurer là, de placer ton argent, de mettre de l'argent dans tes REER, etc. Fait que moi, c'est le genre de choses que des mentors m'ont dit quand j'ai été élue en 2017, puis... je me fais le devoir, finalement, de partager aujourd'hui là, à ces jeunes-là qui sont élus à Québec puis à l'extérieur du Québec. Parce que je t'avais parlé de mentorat, mais j'ai heureusement de mes jeunes que je suivais là, un peu partout au Québec qui ont été élus. Donc là, je continue de les accompagner aussi là-dedans, là, faire leur place au conseil de ville puis apprivoiser leur dossier puis leur rôle. C'est super important.
Pascal, on va se faire assurément une chronique là-dessus avec Alicia Despins.
Oui, on aurait pu en parler longtemps. C'est un angle qui est intéressant. Merci, Alicia.
On a long à dire.
C'est clair qu'on se fait ça. Alicia Despins, merci. C'est un super beau tour de roue de l'année 2025 en politique municipale. On va se reparler sur les ondes de boulevard en 2026, c'est certain. Merci pour ton expertise. Merci pour tes excellentes chroniques. Et je te souhaite un joyeux temps des fêtes avec toute ta famille.
Profites-en.
Merci, vous autres aussi.
Salut,
bye.
Bonne fin de journée. C'était Alicia Despins, ex-conseillère dans Vanier-du-Berger, maintenant chroniqueuse pour Boulevard 102.1 en politique municipale. Joe écrit quelque chose de super intéressant, Pascal, puis je suis certain que ça a résonné énormément dans la tête des électeurs de Québec. Aussi dire que Bruno Marchand connaissait tous ses dossiers par cœur et il était beaucoup plus préparé que les autres partis. C'est tellement un bon point de
c'est
la campagne
qu'il était
électorale.
Tu sais, il est au pouvoir, c'est plus facile. Quand tu aspires à devenir chef d'une ville, par exemple, le temps que tu as les dossiers, ben, c'est de l'accès à l'information. Entre autres, le parti d'opposition doit faire des demandes d'accès à l'information bien souvent, plutôt dire que c'est souvent et tout le temps ce qu'ils font. Pour avoir l'information, c'est 30 jours, etc. Dans le fond, c'est le même principe que pour nous, aux journalistes ou aux citoyens qui voudraient avoir l'info. Fait que le temps de se monter des dossiers, quand ça fait 4 ans que tu es là-dedans, versus toi, tu viens d'arriver, puis tu prennes en compte, puis tu retournes sur le terrain, tu pars à zéro, pas facile. Et même si ça avait été un autre parti qui avait été élu, par exemple, Bruno Marchand et son parti, bon, auraient été tassés. Tiens, Stéphane Lachance serait au pouvoir de la ville de Québec. Le temps de ramasser tous les dossiers, ça dépend ce qu'on lui a donné.
L'apprentissage.
Ça peut prendre des mois
et
des mois.
Parce que souviens-toi, les deux premières années de Bruno Marchand à la tête de la ville, comment ça a été chaotique et que ces deux dernières ont été beaucoup mieux. Et il y avait nécessairement une période d'apprentissage et de rodage là-dedans, c'est certain. On fait une courte pause à l'actualité, ne prend pas congé. Par la suite, on va parler avec France Tachereau, Pascal, qu'on avait parlé lundi dernier. Cette résidente du Mont-Sainte-Anne, qui a un chalet au pied des pentes de ski, c'était son projet de retraite. Puis qui a décidé, ça en est terminé du Mont-Saint-Anne. Donc, on parle avec elle immédiatement après cette courte pause sur Boulevard 102.1. L'actualité ne prend pas congé.
L'actualité.